radio primitive.
La radio qui fait...
Salut à tous, c'est Bonjour. La Poulie, votre vue de presse, comme tous les 15 jours, et
c'est la dernière sur Radio dernière. Primitive.
On se retrouvera en septembre sur un autre créneau, on en reparlera tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de quoi ? On va vous parler de vidéosurveillance, on va vous parler d'une cantine solidaire à Paris.
Il y aura la rubrique high-tech de CQFD.
Du dernier CQFD, ouais. Et peut-être un autre texte sur la issue de ce journal aussi. Et ben, on va peut-être commencer par un peu de musique, comme d'habitude.
Ouais, c'était Pills and Pills, des chiens, du coup.
Alors, on va se lire tout de suite un petit article de CQFD dans la rubrique Marmite et Révolution. Et c'est parti. C'est la cantine des Pyrénées, 10 ans de bouffe subversive. Par quel miracle un chanteur d'opéra, un mec SDF, une chercheuse, une personne sans papier et un ouvrier du bâtiment peuvent-ils se retrouver ensemble derrière les fourneaux ? La scène se passe au milieu des grosses gamelles de la cantine des Pyrénées, à Paris, où une autre façon de faire société se construit depuis une dizaine d'années à table. Des cris s'échappent par les portes grandes ouvertes du 77 rue de la Mare, sur les hauteurs de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Un torrent de café vient de se déverser sur le sol, une pile de prospectus et le t-shirt d'Agnès. Une sombre histoire d'ondes négatives d'après le roi François, habitué des lieux et des envolées improbables. Derrière, tout le monde se marre autour d'une table où trônent des cagettes de tomates et de courgettes un peu cabossées. « Allez les gens, elles vont pas s'éplucher toutes seules », tonne Sophia en sortant une caisse pleine de couteaux et d'économes. Les cuistots du jour, mélange d'habitués et de nouveaux, un peu intimidés par les grandes gueules, se lancent. Qu'est-ce qu'on peut préparer avec tout ça ? Il est 9h30 et, comme presque tous les matins, c'est un joyeux bordel à la cantine des Pyrénées. Tout commence en 2013 dans un immeuble vite squatté par des militants proches du milieu autonome, au 331 rue des Pyrénées, à 500 mètres du local actuel. Un lieu en plein cœur de Belleville, quartier historiquement populaire du nord et du nord-est de Paris, toujours un peu plus menacé et grignoté par la gentrification. Quelques personnes s'installent dans les étages et l'atelier cantine, imaginé dès les origines de l'occupation, se met en place au rez-de-chaussée. Le plan, cuisiner en groupe, dans un esprit d'entraide et de solidarité, et servir une petite centaine de repas à prix libre quotidiennement. On voulait que ce soit le plus ouvert possible, sortir de notre entre-soi politique et proposer un lieu émancipateur pour les personnes qui ne sont pas initiées à Marx ou à Gramsci. Que ce soit accessible et appropriable par tous et toutes, tout en gardant notre subversivité, retrace Samuel en découpant de la ciboulette. En parallèle, d'autres ateliers gratuits sont créés, des cours de français, une aide juridique, des repas de soutien pour d'autres lieux et luttes, des sessions de bricolage, un atelier santé et d'autres d'éducation populaire. L'idée avec l'atelier cantine, c'était de répondre à un besoin commun, manger, tout en sortant d'une logique marchande. Et tout de suite, ça marche. Des tas de curieux poussent la porte, les habitants du quartier s'approprient les lieux. Des médecins, des sans-abri, des militants, des précaires, des universitaires et des retraités se retrouvent derrière les fourneaux. Merveilleuse alchimie. Jusqu'à l'expulsion, un an et demi plus tard. Il était hors de question de s'arrêter. On a fait quelques cantines sauvages sur le trottoir. Et en 2016, on est arrivé ici, poursuit Samuel, prof d'échec, engagé dans le collectif quasiment depuis le début. Popote, autogestion et solidarité. Un charou un peu fébrile lape un bol de lait plein en plein milieu de l'entrée et manque de faire chuter Zazie, en retard et mal luné. Gadget chante Ferré en touillant les oignons dans une énorme cocotte. Juliette se lance dans un fondant au chocolat et Rosario enfourne les légumes. Deux jeunes s'attardent devant les fenêtres, hésitent puis franchissent le pas. « Qu'est-ce que vous faites ?» 10 minutes plus tard, elles ont un tablier sur le dos. « Ici, on se sent vite chez soi », assure Isa, habitante du quartier. Sophia, dont la voix puissante résonne dans la cantine, est arrivée un peu par hasard il y a quelques années. Le 115 me donnait parfois l'hôtel, qui est pas loin, en bas. Et un jour, on m'a dit que je n'avais plus de place. Je remontais la rue, je suis passé devant la cantine et voilà, c'est devenu la maison. Après ses nuits à l'aéroport de Roissy, elle est une des premières à se pointer chaque matin. Il y a de l'ambiance, on s'engueule, on se marre, on cuisine tous ensemble, on s'aime. C'est pas comme les restos du cœur et tout. Ici, c'est nous qui faisons tourner le lieu, c'est autogéré et on mange bien. L'essentiel de la nourriture utilisée en cuisine provient de la récupération d'invendus et de donations en vrac des habitants. Et depuis un peu plus d'un an, la cantine cultive un bout de terrain sur une ferme collective en Seine-et-Marne, à 1 heure en transport de Belleville. De l'ail, des patates, des courges, des oignons, on essaie de tendre doucement vers l'autosubsistance alimentaire. C'est un geste essentiel et ça permet à beaucoup de gens de remettre les mains dans la terre, insiste Samuel. Convaincu que la cantine démontre en acte, et depuis bientôt 10 ans, les possibilités pratiques de l'autonomie politique. Bientôt midi, les tables sont dressées. L'ambiance banquet a un peu perdu de son charme depuis que la terrasse a été interdite sous la pression de certains voisins. Dès l'installation en 2016, le commissaire de police est allé leur dire que c'était des anarchistes ou je sais pas quoi, qui s'étaient installés en bas de chez eux. Alors que c'est pas ça, grogne Sophia. Bah si, un peu quand même, reprend Pauline, de passage après un spectacle de danse. Une maman avec sa poussette et des ouvriers et deux étudiants en géographie entrent à leur tour à tour. Salut la cantine. Hamid, à la joie contagieuse, s'installe derrière la caisse, claque des bises et devient pote avec tous les nouveaux en moins de deux. Carlos se lance dans la plonge. François, le regard brillant et la voix un peu hésitante, sert les assiettes. Un gazpacho de tomates, du pesto, des carottes et une omelette, façon tortilla. Je suis hébergé dans le quartier et j'ai découvert la cantine par hasard il y a quelques jours. J'aime bien cet endroit. Les gens prennent le temps de se rencontrer. D'habitude, on prend jamais le temps en ville. Et je trouve ça dommage. Symbole fort, des médecins de la maison de santé installés un peu plus haut dans le quartier recommandent à des patients dépressifs et touchés par d'autres maladies psychiques de franchir les portes de la cantine pour sortir de l'isolement, précise Alexandre, également membre du collectif. Il y a peu d'espaces comme ça dans la ville, des lieux participatifs où il y a de la place pour celles et ceux à qui on n'en laisse aucune. Franchement, ici, c'est magnifique. Voilà, c'est un article de Robin Boukto, et une illustration, bah ça vous ne pouvez pas la voir malheureusement, mais c'est Manon Rope qui fait l'illustration de ce magnifique article, et on peut donc s'écouter un petit peu de musique.
Avec Neuroleptics de Chou.
Je vais vous lire la rubrique high-tech qu'on aime bien vous lire, de la rubrique qui défonce la technologie et ses 20 mirages issus de CQFD. C'est le 10e épisode et ça s'appelle « Facebook nous a transformés en connards ». Paco Mtielman est un drôle de type, un érudit à barbe et tignasse hirsute, tellement passionné de David Lynch qu'il pourrait sans doute rejouer toutes les scènes de la série Twin Peaks. Il a écrit des bouquins sur le poète Gérard de Nerval, Led Zeppelin ou la révolution gnostique. Fondé des revues et des collectifs abscons, pondu des textes étranges et philosophiques sur à peu près tout ce que la planète comporte de plus ou moins sympathique déviance. Bref, un chouette gonze. Depuis fin 2021, Paco Mtielman a tenu sur Blast une sorte de longue et ambitieuse série documentaire intitulée « Infernet ». À laquelle cette chronique high-tech doit beaucoup. En 12 épisodes, il a arpenté certains des territoires les plus infernaux des réseaux sociaux, allant des vidéos de foot porn, boulimique, du consternant Nico Cado Avocado, à l'histoire de Tay, l'intelligence artificielle devenue nazie en 24 heures sur Twitter. Le tout livrant un tableau ô combien sombre de notre outre-monde numérique, influenceuse à la psyché détraquée, secte numérique en roue libre, dissémination d'arnaques à gogo, de chaque recoin de putréfaction d'Internet, les douze cercles de l'Infernet, il a tiré des leçons. Son constat, Nous sommes tous des kidnappés du spectacle. Il n'a pas fait les choses à moitié, Pacôme. S'immergeant corps et âme dans ses sujets, l'illustrant d'exégèse philosophique et de détails macabres, il confesse d'ailleurs avoir craint pour sa santé mentale au fil de ce projet. Ça pèse, c'est terrible. La dernière vidéo qui signe la fin d'Infernet remonte au 30 avril dernier. C'est sans doute la plus généraliste. Elle s'appelle « Comment Facebook et Zuckerberg ont détruit l'humanité, ou presque ». Ambiance. Il y déchiffre en accéléré l'histoire d'un phénomène qui, en l'espace d'une grosse décennie, a touché quasiment toute l'humanité et pulvérisé notre rapport au monde. 2004, création. 2021, 3,5 milliards d'utilisateurs. Pacôme décrit Facebook comme la plus grosse arnaque en ligne jamais réalisée. Commencer dans l'arnaque, voir le film de David Fincher sur le lancement du bousin, The Social Network 2010. Continuer dans l'arnaque, vente des données privées des utilisateurs. Disséminer politiquement dans l'arnaque, scandale Cambridge Analytica et élection de Trump. Une révolution copernicienne d'une tristesse sans nom. Avec pour braqueur en chef un sociopathe qui a su disséminer son aigreur sur la toile entière à la façon d'une invasion de punaises de lit. Quand nous allons sur Facebook, nous allons dans le monde de Mark Zuckerberg, estime Pacôme. Nous lisons dans le visage des autres, avec les mêmes yeux que lui, et nous cherchons des amis dans le monde d'un homme qui n'a pas d'amis. Pire, qui n'a peut-être jamais eu l'ambition ou le désir d'en avoir. On comprend en lisant le bouquin de Pacôme Tiellement que Pacôme Tiellement a tiré de sa série ce dernier sujet lui tenait particulièrement à cœur. Dans une postface intitulée « Internet et moi, une confession », il raconte son rapport à la fois banal et effrayant à ce réseau social, sur lequel il s'est inscrit en 2008 et dans lequel il s'est enlisé, comme tant d'autres, offrant au monstre de Zuckerberg de précieuses heures quotidiennes et des bouts de son cerveau. La série Infernet semble avoir été pour lui une manière de se désintoxiquer par le mal, en allant quêter les manifestations les plus folles d'un mal plus général. Et ce dernier épisode lui permet de boucler la boucle, montrant comment Facebook nous a transformés en espions, en brutes, en juges et in fine en connards. Dans ce qu'il décrit comme la prison psychique des réseaux sociaux, nous sommes devenus des mini Zuckerberg, à la fois victimes consentantes et bourreaux enthousiastes, biches si aveuglées par les phares des réseaux que nous leur offrons toutes nos données pour mieux nous encager. Une consolation, Facebook semble devenir un truc de vieux con et son projet de métavers est une foirade monumentale. Une inconsolation, d'autres se pressent au portillon, toujours plus intrusif. Bienvenue chez les connards augmentés. Donc voilà, c'est écrit par Émilien Bernard et c'était dans le CQFD de cet été, numéro de juillet-août. On vous relira un article tout à l'heure. Et on va se mettre un peu de musique.
Dangerous all around you. Stop. Everyone run.
C'était Tekken Dramatic Scale de Leek, L-I-I-E-K.
Eh ben, on va se lire maintenant un petit article encore du CQFD de ce mois-ci qui s'appelle « Le doigt dans l'œil de l'antiterrorisme ». Et le 20 juin, la sous-direction antiterroriste a mené une deuxième vague d'arrestations dans tout le pays, toujours pour la même enquête concernant le sabotage de l'usine Lafarge en décembre 2022. Récit d'arrestation depuis la Meuse. Si j'avais su que c'était les flics, j'aurais fermé la porte à clé. Mais non, ils te l'auraient détruite. Et là, ils ont au moins eu la présence d'esprit d'essayer la clenche avant de tout défoncer. Gilles n'a pas vraiment le cœur à rire, même si c'est sa spécialité. Il commence pourtant à avoir l'habitude des vagues d'arrestations de militants et de militantes et de la répression hors normes. Il est installé en Meuse depuis une dizaine d'années, y a débarqué pour lutter contre le projet de poubelle nucléaire Cigéo à Bure. Mais là, dans le cadre de la dissolution des soulèvements de la Terre, la répression est montée d'un cran. Le mardi 20 juin au matin, il s'est retrouvé plaqué au sol en caleçon menotté avec un fusil d'assaut de la brigade antiterroriste de la gendarmerie nationale braqué sur la tempe. Manon et Loïc, installés dans une cabane au fond du jardin de Gilles, ont subi le même sort. Une trentaine de robocops ont embarqué Loïc vers une gendarmerie assez éloignée, pendant que des dizaines d'autres stationnaient devant plusieurs lieux de lutte collective autour de Bure pour inciter les militants et militantes à se tenir tranquilles. Loïc a ensuite été transféré à la maison d'arrêt de Poitiers-Vivonne. Que reproche-t-on à ce maraîcher et employé d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ? D'avoir participé aux deux manifestations contre la construction des méga-bassines à Sainte-Soline le 29 octobre 2022 et 25 mars 2023, d'avoir tagué une camionnette de gendarmerie et d'avoir tenu dans ses mains un gilet de gendarme, répondent ses avocats. Interloqué face à l'ampleur de la répression des militants et militantes écologistes depuis que Macron est au pouvoir, circonstance aggravante aux yeux des Pandores, Loïc a participé à toutes les manifestations contre la réforme des retraites. Il alimenterait le média indépendant et engagé, le pavé lorrain, et serait proche des soulèvements de la Terre et du Bloc lorrain, deux organisations que Darmanin vient de dissoudre coup sur coup. Loïc a été placé en détention provisoire jeudi 29 juin après avoir refusé de la procédure de comparution immédiate. Son procès aura lieu le 27 juillet. Il risque jusqu'à 7 ans de prison, un épisode de plus dans la longue série des violences qui visent celles et ceux qui luttent contre la destruction du vivant et s'opposent à la catastrophe écologique et sociale en cours. De quoi se décourager, loin s'en faut, à en croire les soutiens de Loïc. Ils se mettent le doigt dans l'œil s'ils pensent ça. Et voilà, c'est un article par Kevin Grillo et Sébastien Bonetti. Voilà. Et on peut se mettre peut-être un peu de musica.
Au-dessus de toi, du pavillon, ce petit
C'était les rues de Villiers de Colombey.
Et moi, je vais vous lire en tout cas le début d'une brochure qui vient de sortir, qui tourne et qui est sur les internets. Ça s'appelle Pas vu, pas prise et ça traite de la vidéosurveillance et de la lutte contre la vidéosurveillance. Donc je vous encourage à aller choper cette revue. Et en attendant, je vais vous lire le début. En quelques années, la vidéosurveillance s'est imposée de manière incontournable dans notre quotidien. Les caméras ne sont plus réservées aux boulevards des villes ou aux allées des grands magasins. Aujourd'hui, on peut les croiser partout. Elles sont devenues banales, au point qu'on ne les remarque presque plus. Pourtant, pour certains et certaines, difficile d'oublier le poids de ces petits appareils voyeurs sur nos vies et nos modes de fonctionnement. Elles rendent les endroits pris dans leur champ de vision plus hostiles. Parce que forcément, avoir l'impression d'être épié en permanence rend méfiant. On se demande si on n'a pas l'air louche, on s'auto-censure. C'est le propre de la surveillance que de pousser à la normalisation, de faire qu'on s'assagisse de soi-même par crainte d'une répression potentielle. La sécurité par la répression et le contrôle, c'est une des bases de l'État, qui reste toujours à la recherche de nouveaux moyens d'asseoir et de consolider sa domination. La vidéosurveillance, même si elle n'est qu'un outil parmi d'autres, prend une place de plus en plus importante dans la panoplie sécuritaire actuelle. Notamment parce que les caméras sont un soutien d'autres dispositifs pour un État qui ne peut pas multiplier les flics à l'infini. En augmentant constamment leur champ de vision et leur efficacité par des nouvelles installations et des logiciels de surveillance automatisés, toujours plus performants, les Condés peuvent accroître leur capacité sans avoir à augmenter leur effectif. Qu'on ne se fasse pas d'idées pour autant, le déploiement croissant de vidéosurveillance dans l'espace public n'est pas synonyme d'une diminution du nombre de patrouilles de keufs dans la rue. En plus d'être un pilier de la répression, la vidéosurveillance est aussi, par essence, un formidable outil de discipline. Son panoptisme, l'impression pour nous d'être possiblement observé partout et tout le temps, pousse à la normalisation. D'autant plus quand on sait que les logiciels de vidéosurveillance visent de plus en plus à détecter les comportements « anormaux », entre guillemets, s'arrêter dans un espace où il faut marcher, flâner alors qu'on devrait s'asseoir, où on veut, s'asseoir là où il faut se tenir debout, se rassembler alors qu'il faudrait rester seul. Combattre la vidéosurveillance, c'est aussi revendiquer de pouvoir vivre sans se demander encore à quelles normes il faut se soumettre alors qu'on voudrait les abolir toutes. On aurait tort de ne voir les caméras de rue. Le regard du pouvoir vient s'immiscer dans tous les endroits où les forces de contrôle cherchent à se déployer. Lieux de travail, écoles, prisons, halls d'immeubles, transports, etc. Partout, l'État et ses auxiliaires cherchent à rappeler et à renforcer leur présence. Et comment ne pas avoir tous ceux et celles qui installent les caméras chez eux et dégainent leur téléphone à la moindre anomalie, de la manif à la rando, rares sont les endroits ou les moments où on n'a pas à se méfier d'être épié par un petit mouchard. Et comme on a fait l'expérience pendant le confinement avec les drones, même la tranquillité des plages, des forêts et des montagnes se voit dérangée par leur bourdonnement arrogant. Du coup, le déploiement massif de caméras, leur perfectionnement et les promesses d'extension de leur usage foutent la trouille. Ça paraît vertigineux, mais on n'a pas envie de se résigner. Ce n'est pas parce que la vidéosurveillance est devenue omniprésente qu'elle ne peut plus être mise en question et attaquée. En clair, on refuse de s'y habituer. Malgré l'impression qu'on peut en avoir, ces systèmes sont loin d'être infaillibles. Ils ont des points faibles, des brèches, et il existe plein de façons de les contourner. Alors l'idée de ce projet, c'est de mutualiser nos connaissances, nos astuces et nos pratiques pour se sentir plus fort, en se donnant des billes pour se débrouiller face à la vidéosurveillance, pour qu'elle ne nous assomme pas au quotidien, ni nous empêche d'agir. Savoir où sont placées les caméras, comment elles fonctionnent, comment leurs images sont transmises et consultées, et comment les technologies évoluent, c'est aussi se donner des moyens concrets de pouvoir, avec plus de confiance, s'en prendre à la vidéosurveillance et aux intérêts qu'elle protège. Ce projet repose sur des connaissances acquises, un peu partout par différentes personnes. Il n'est donc pas l'œuvre de techniciens ou d'experts. Ça veut dire qu'on ne prétend ni être complètement exhaustif, ni qu'on n'a pas pu faire l'expérience dans ce que l'on partage et que la situation évoluant continuellement, il y aurait sans cesse des ajouts et des modifications à apporter. mais ça veut aussi dire qu'il y a pas mal d'informations accessibles à celles et ceux qui veulent apporter de l'eau au moulin de la lutte contre la vidéosurveillance. On va enchaîner avec un bref historique de la vidéosurveillance et ensuite je vous laisserai prendre le relais. Bref historique de la vidéosurveillance. Le premier système de vidéosurveillance a vu le jour en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Il fut installé pour surveiller le lancement de missiles balistiques tirés sur l'Angleterre. À partir de la fin des années 60, ce type de système commence à être développé et commercialisé pour des usages civils et plus particulièrement pour surveiller l'espace public. En 1968, c'est dans la ville d'Olean, aux États-Unis, que des caméras sont installées pour la première fois afin de surveiller des rues. Puis, durant les années 80, le Royaume-Uni généralise des systèmes de vidéosurveillance urbain à la suite d'attentats de l'IRA, groupe armé indépendantiste irlandais. En France, les premières caméras de rue sont installées à Levallois-Perret, dans le 92, au début des années 90, par le maire Patrick Balkany, dans un cadre légal flou. L'initiative a fait l'objet de vives critiques. Plusieurs plaintes ont été adressées à la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, même si les politiques sécuritaires avaient déjà le vent en poupe parmi les habitants de la commune. Par ailleurs, le système composé de 96 caméras était cher et difficilement exploitable. Malgré tout, sans surprise, cette première expérience contribua à inscrire la vidéosurveillance dans le paysage politique français. Peu de temps après, en 1995, une loi fut promulguée pour fixer le cadre légal pour l'installation de caméras dans les lieux publics. Progressivement, la vidéosurveillance s'est ensuite imposée dans un enjeu de politique publique. Lors des élections municipales de mars 2001, le thème de l'insécurité est très présent et l'installation de caméras apparaît comme une mesure phare de nombreux programmes électoraux. Par la suite, cette dynamique ne cessera de s'accentuer, en particulier après les attentats du World Trade Center à New York en 2001. En 2006, Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, fait voter une loi relative à la lutte contre le terrorisme, qui assouplit les conditions d'utilisation de la vidéosurveillance dans l'espace public. C'est également l'actualité de la menace terroriste qui sera mise en avant pour justifier le lancement en 2007 d'un plan national d'équipement de vidéoprotection, entre guillemets. On remarque au passage le changement sémantique qui, s'il n'a aucun effet sur la réalité de la surveillance, témoigne de la volonté de la rendre plus acceptable, voire désirable. On préfère toujours être protégé que surveillé. La même année est créé le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD. C'est pour inciter les collectivités locales à installer des caméras dans l'espace public. Avec cette caisse, dont l'argent est issu des amendes forfaitaires, l'État subventionne, entre autres, les projets d'installation de caméras et le raccordement des centres de supervision urbains, les CSU, aux services de police et de gendarmerie. En 2007, on comptait environ 20 000 caméras de surveillance des voies publiques. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre 2007 et 2014, 2820 communes et 173 établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ont été subventionnés par le FIPD pour installer 26 614 caméras supplémentaires. La multiplication des systèmes de vidéosurveillance va de pair avec leur banalisation. D'une part, le cadre légal s'affine comme dans la loi LOPSI 2 votée en 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Elle étend la liste des finalités justifiant la vidéoprotection des lieux publics et permet aux préfets d'installer temporairement des caméras lors de manifestations. D'autre part, les villes qui n'avaient jusque-là pas de caméras subissent de plus en plus de pression pour en mettre. Par exemple, la commune de Villeurbanne, dans le 69, face au discours de Sarkozy, la désignant comme zone blanche, et à l'insistance des villes voisines, des gendarmes, des commerçants et des citoyens, sans doute vigilants, finit par installer ses premières caméras en 2018 et en comptait 105 en 2021. Après les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre 2015, la menace terroriste sert à nouveau de prétexte à justifier la mise en place de mesures de contrôle. Alors qu'est déclaré l'état d'urgence, le développement de la vidéosurveillance s'accélère. À Paris, entre 2015 et 2022, le nombre de caméras publiques dans les rues a quadruplé. Mais c'est aussi de plus en plus de petites communes qui deviennent vidéosurveillées. À Nice, lorsque se produit l'attentat du 14 juillet 2016, la ville est déjà la plus vidéosurveillée de France. Selon les autorités locales, si les caméras n'ont pas empêché le massacre, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. La cadence d'installation prend donc un rythme plus soutenu, faisant augmenter leur nombre de 1300 en 2016 à 3300 en 2020. La ville déploie en parallèle le projet de Safe City, une ville connectée où vidéosurveillance et big data veillent sur la sécurité de tout et de toutes. À grand renfort de logiciels de surveillance automatisés en partenariat avec l'entreprise Thales. En 2019, Nice expérimente la reconnaissance faciale. Dans la foulée, la CNIL s'empresse d'exiger un encadrement juridique de cette technologie. On voit bien ici comment cette institution sert avant tout à démocratiser des moyens de contrôle toujours plus performants. Les investissements publics attirent sans surprise une cohorte de boîtes privées pressées de se faire du fric sur ce marché en plein essor. Parmi les leaders du secteur, on peut citer Axis ou Hackvision. Pour l'installation, Engie Ineo et Briefcam pour le traitement et l'analyse de données. Ces entreprises sont bien aidées par l'État qui accorde la loi avec leurs intérêts économiques et qui promeut les partenariats publics-privés. En 2020, les ventes cumulées des fabricants de dispositifs de vidéosurveillance, matériels et logiciels, distributeurs et installateurs dans le cadre de marchés publics atteignent près de 300 millions d'euros. Certaines entreprises font même des offres promotionnelles pour vendre leurs produits aux collectivités locales. Avec la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses sociétés de sécurité ont saisi l'opportunité pour proposer des solutions de surveillance numérique. Par exemple, à Cannes et à Paris, pendant le confinement, l'entreprise Dataca Lab a expérimenté un logiciel de détection du port du masque. La CNIL, une fois de plus, a poussé à une adaptation des réglementations en vigueur pour légaliser ce type d'outil en pointant du doigt sa non-conformité avec la loi. Par ailleurs, avec la crise sanitaire, on a vu se répandre les caméras thermiques pour contrôler la température des gens aux entrées des aéroports, des écoles, des entreprises et des pôles administratifs. D'autres villes ont fait voler des drones pour diffuser des messages et appuyer les opérations de police en filmant depuis les airs. La menace terroriste, la lutte contre la délinquance ou celle contre le Covid sont des épouvantails que les autorités agitent pour mieux faire accepter la vidéosurveillance et accélérer son déploiement. Qu'on se le dise, probablement que sans attentat ni crise sanitaire, la tendance aurait été sensiblement la même. Car quoi qu'il arrive, la vidéosurveillance se présente pour l'État comme une formidable aubaine en vue de renforcer l'une de ses raisons d'être, contrôler les individus. Régulièrement, il cherche à repousser les limites de l'acceptabilité de son contrôle sur nos vies, à l'aide de mécanismes désormais bien rodés, des expérimentations pionnières suscitent un tollé, des critiques sont formulées avant d'être intégrées dans une loi qui légalise le nouveau dispositif. Tout en laissant croire que rien n'a changé, qu'on serait toujours aussi libre qu'avant. Le développement de la vidéosurveillance ne s'est pas fait sans rencontrer de résistance. Et si on ne peut pas dire qu'il y a eu un large mouvement pour s'y opposer, on ne peut pas non plus ignorer les initiatives et les luttes contre les caméras. Beaucoup de ces résistances se sont exprimées et continuent de le faire sous un prisme légaliste. Des associations de riverains ou de défense des droits de l'homme dénoncent l'installation ou la présence de dispositifs de vidéosurveillance par des campagnes publiques ou des recours juridiques. Avec la multiplication des caméras, d'autres formes de contestation ont vu le jour. Un outil contre la vidéosurveillance a souvent été de cartographier les caméras présentes dans l'espace public, que ce soit pour les éviter, les saboter ou juste montrer l'ampleur de leur présence. De manière parfois plus discrète, au cours de leur installation, il y a eu des campagnes de sabotage et régulièrement, depuis leur mise en place, elles sont détruites ou dégradées, parfois de manière visible, au cours de manifestations. Ces luttes se sont accompagnées de nombreuses campagnes d'affichage contre la vidéosurveillance. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous encourage à aller lire la fin de cette brochure que j'ai trouvée sur notamment Paris Lutte Info, du site du réseau Mutu, mais vous la retrouvez un peu partout. Elle s'appelle « Pas vu, pas prise ». Voilà, et on va se mettre un petit peu de musique.
Le sport, c'est de la merde. Le sport peut entraîner une mort lente et douloureuse. Le sport crée une forte dépendance. Ne commencez pas. Le sport nuit gravement à votre entourage. Le sport nuit gravement aux spermatozoïdes. Le sport provoque des maladies mentales.
Zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen.
Le sport nous gonfle à la télé. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter le sport. Protégez les enfants, ne leur faites pas respirer de sport.
Le sport nuit gravement à votre entourage.
Le sport c'est de la merde.
C'est le sport de Jacquenot.
Alors, on se lit maintenant encore un petit article, hein, petit, de CQFD, de ce mois-ci, toujours, avec entretien avec Olivier Tesquet. La France est l'un des pays les plus envoûtés par le mysticisme techno-sécuritaire. Activation des objets connectés à distance, surveillance des journalistes, expérimentation de la reconnaissance faciale. Depuis quelques mois, les projets de loi liberticide se multiplient, et même si tous n'aboutissent pas, le discours technosécuritaire est de plus en plus hégémonique. Entretien. Début juin, le Sénat a adopté l'article 3 de la loi Justice, qui prévoit la possibilité d'activer à distance les objets connectés, téléphone, ordinateur, pour récupérer des informations dans le cadre d'enquêtes. Dans la foulée, il tentait de repêcher les dispositions sécuritaires écartées de la loi JO 2024, en validant le 12 juin l'expérimentation sur 3 ans de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Au niveau européen, le Media Freedom Act, actuellement en faveur de la liberté de la presse, permettra de piéger les téléphones des journalistes au moyen de logiciels espions afin de les surveiller. On fait le point avec Olivier Tesquet, journaliste à Télérama spécialisé dans les technologies numériques et la surveillance, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. On pensait avoir échappé à la reconnaissance faciale écartée de la loi JO 2024. Elle revient par une autre porte ? Dans le cadre de la loi JO 2024, la ligne rouge concernant la reconnaissance faciale s'était révélée plus difficile à franchir que prévu pour le gouvernement. En adoptant cette proposition de loi visant à créer un cadre d'expérimentation pour la reconnaissance faciale, le Sénat prépare le terrain en fabriquant de l'acceptabilité. Et même si cette proposition de loi a peu de chances d'être votée par l'Assemblée, c'est un calcul stratégique. On banalise les discours, les arguments et les technologies en question. On fabrique du consentement et on prépare les esprits pour le déploiement de ces technologies comme s'il était inéluctable. C'est la même histoire avec l'usage des drones dans le cadre du maintien de l'ordre. L'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallement, les utilisait sur le terrain. Le Conseil d'État a d'abord dit non, suivi par le Conseil constitutionnel qui a censuré ces dispositions dans la loi sécurité globale. Mais ils ont finalement réussi à en légaliser l'usage par le biais d'un autre véhicule législatif, la loi sur la responsabilité pénale. Il y a un effet cliquet. Quand les technologies sont sorties de la boîte, c'est extrêmement difficile de les y remettre. Les arguments semblent toujours les mêmes. La lutte antiterroriste et la nécessité d'encadrer des technologies déjà là. Ce sont deux éléments assez stables de l'obsession technosécuritaire. La législation a posteriori, où on légifère à l'envers afin d'autoriser les technologies déjà en usage, et la lutte contre le terrorisme. Ce sont deux arguments massus auxquels il est très difficile de s'opposer et qui sont utilisés quasi systématiquement lorsqu'il s'agit du déploiement de technologies sécuritaires, alors même que rien ne prouve qu'elles soient efficaces par rapport à leurs objectifs. Ce qui est encore plus curieux, c'est que moins une technologie fonctionne, plus on va tenter de la perfectionner, plus on va la déployer dans des versions encore plus intrusives. On impose la vidéosurveillance partout, et face aux doutes et critiques, on passe à la vidéosurveillance algorithmique, puis à la reconnaissance faciale, sans savoir si elles sont efficaces. On est sorti du domaine de la rationalité scientifique pour rentrer dans celui de l'irrationalité quasi religieuse. À qui profite cette croyance dans le pouvoir magique de la technologie ? Elle profite évidemment aux industriels qui fabriquent ces technologies et qui en tirent d'importants bénéfices. Ensuite, pour les politiques, le discours sécuritaire est devenu un rituel d'accession au pouvoir, un élément stable de leur programme, car c'est un discours rémunérateur. L'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, est un exemple chimiquement pur. Il a fait la campagne sur la sécurité, a fait de Nice une ville pionnière dans la vidéosurveillance et entretient ce discours comme une forme de rente lui garantissant une longévité politique. C'est le genre de programme qui permet de prétendre agir avec des installations visibles et valorisables et qu'importe si la technologie n'a pas fait la preuve de son efficacité, voire a fait la preuve de la démonstration de son inefficacité. Dans l'émission « C'est ce soir » à laquelle tu as participé, la spécialiste des enjeux politiques et des technologies, Asma Mala, expliquait qu'on est passé d'un droit à la sûreté à un droit à la sécurité. Quelle est la différence ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit d'être protégé contre l'arbitraire de l'État. Depuis une quarantaine d'années, celui-ci a été travesti par les gouvernements successifs, droite et gauche confondus, en droit à la sécurité, qui est la possibilité pour l'État de violer de manière arbitraire les libertés des concitoyens. Dans les considérants de la dissolution des soulèvements de la Terre, on retrouve notamment pour argument le fait de laisser son téléphone mobile chez soi ou de le mettre en mode avion afin d'éviter le bornage. Est-il devenu interdit de se protéger ? C'est un exemple supplémentaire de la manière dont l'État utilise la notion floue de terrorisme à des fins politiques. Ici, la répression contre les mouvements écologistes, qui, même si elle n'est pas nouvelle, rappelons-nous la débauche de moyens technologiques pour pas grand-chose à Bure, s'aggrave, on va vers une criminalisation de la furtivité. L'utilisation de certains outils, comme Tails ou une messagerie chiffrée, est considérée comme suspecte. C'est comme quand, en manifestation, apporter du sérum physiologique ou se protéger physiquement deviennent des éléments incriminants. D'un côté, le pouvoir serait dit, devient de plus en plus violent, et se dotent d'outils de plus en plus intrusifs. De l'autre, on dénie aux citoyens la possibilité de se protéger contre l'arbitraire de ce pouvoir. Au niveau européen, le contrôle technologique des frontières semble faire exception à toute réglementation. Historiquement, les stratégies de surveillance de la police, même avant l'irruption de la technologie, ont toujours ciblé les catégories de population considérées comme dangereuses, entre guillemets. Les pauvres, les nomades, les ouvriers, les vagabonds. Aujourd'hui, les personnes exilées. Et l'Union européenne se comporte comme un laboratoire de recherche et de développement technosécuritaire qui installe et teste littéralement in vivo ces dispositifs sur les personnes auxquelles on dénie déjà un certain nombre de droits fondamentaux. L'AI Act, règlement sur l'intelligence artificielle, en est un bon exemple. Adopté par le Parlement européen mi-juin afin de réglementer les systèmes de surveillance algorithmique, notamment en les classant en fonction des risques qu'ils posent, il renonce à agir sur les technologies sécuritaires déjà utilisées aux frontières. Mis bout à bout, tout cela dessine un contexte inquiétant. C'est comme si rien ne pouvait contrer la logique technosécuritaire à l'œuvre. En 2008, les personnalités de tous bords politiques s'étaient indignées du projet Edwige, qui visait à afficher les opinions politiques, syndicales et religieuses des Français à partir de l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, même si certains tirent la sonnette d'alarme, le plus grand monde ne prend position. La digue est en train de céder. La France fait partie des pays les plus envoûtés par cette espèce de mysticisme technosécuritaire, comme le chef de file de cette course en avant. C'est pour cela qu'il faut poser collectivement des diagnostics et imposer un débat politique et non technique sur ce sujet. Il faut s'organiser, faire du bruit, comme disait Günther Anders, inquiéter son voisin comme soi-même. Voilà, les propos recueillis par Jonas Schneider. Et voilà. Et un petit peu de musique.
C'était la poulie, la dernière de la saison.
Et on se retrouve au début septembre, on se retrouvera les lundis, tous les lundis. Et ça sera de 11h à 11h30. Donc voilà, bonnes vacances si vous en avez.
À bientôt.
Profitez du mois d'août et on se retrouve en septembre.
Allez, bonne soirée.
Bon été.